33 9 693 693 70. Juan Gomez.
L'antenne vous appartient. Merci d'être avec nous. Dans 30 minutes, nous parlerons de la crise politique au Mali après l'impressionnante manifestation de vendredi à Bamako. Pour la deuxième fois en trois semaines, des dizaines de milliers de personnes se sont retrouvées place de l'Indépendance pour réclamer le départ immédiat du président Ibrahim Boubacar Keïta. Une mission de la CEDEAO s'est rendue sur place pour tenter une médiation. Et parmi les solutions de sortie de crise, les diplomates proposent la mise en place d'un gouvernement d'union nationale et la reprise partielle des élections législatives du mois d'avril, là où les résultats font polémique. Seulement, voilà, les leaders de la contestation rejettent ces propositions. Seul le départ du président peut sauver le Mali, ont-ils encore affirmé hier en conférence de presse. Alors comment sortir de l'impasse? Quelle marge de manœuvre reste-t-il au président Ibeka? On en parle donc ce matin sur RFI, 33 9 693 693 70. Je vous attends également sur nos réseaux sociaux, la page Facebook de l'émission et le compte WhatsApp d'appel sur l'actualité. Mais d'abord, vos questions à la rédaction pour mieux comprendre l'actualité. Ravi d'accueillir Amidou, il est à Ouagadougou. Bonjour Amidou.
Oui, bonjour Juan et bonjour à tous.
Vous souhaitez revenir sur l'accrochage meurtrier survenu la semaine dernière dans l'Himalaya entre les armées chinoises et indiennes.
Oui, tout à fait, Juan. La semaine dernière, des affrontements entre les armées chinoises et indiennes ont éclaté à la frontière disputée dans l'Himalaya, pesant 20 morts côté indien, tandis que la Chine refuse de révéler ses pertes. Juan, pourquoi la situation s'est récemment détériorée au point d'avoir des morts?
Oui, des morts, des victimes. Des victimes, effectivement. C'est la première fois depuis 1975 qu'un accrochage entre les deux armées fait des morts. Amidou, je sais que vous avez d'autres questions, mais on va y répondre. Nous avons le temps, évidemment. Stéphane Lagarde est avec nous. Bonjour Stéphane.
Bonjour Juan, bonjour Amidou.
Correspondant permanent de RFI dans la région. Amidou le rappelait à l'instant, cet accrochage a eu lieu à la frontière contestée entre les deux pays. Sait-on quel est l'élément déclencheur de cette confrontation?
Ben pour être honnête, Amidou, c'est pas encore tout à fait clair. En tout cas, on n'a pas les réponses précises. Ce qu'on sait, c'est que les deux parties, les deux camps, les deux armées se reprochent de vouloir finalement gagner du terrain, de marquer leur territoire, en tout cas sur cette qu'on appelle la NAC, qui marque la frontière entre la Chine et l'Inde. On reprécise qu'on est quand même dans une région à 4200 mètres d'altitude. Hein, on est sur le toit du monde, dans les régions de l'Aksai-Chin, qui est disputée par les deux pays. C'est magnifique, Amidou, hein, cette région. On pourrait faire une randonnée, mais rien ne pousse, en fait. Hein. Et les deux parties se battent autour de cette frontière qui est autour d'une rivière qui s'appelle Galwan, donc dans une vallée. Les armées indiennes et chinoises sont de chaque côté, et selon les deux parties, hein, moi je ne peux pas dire qui a raison dans l'histoire, chacune en tout cas accuse l'autre de vouloir s'installer, avancer finalement autour de cette ligne en construisant des infrastructures militaires. Et donc il y a eu ces combats violents à main nue, hein, il n'y a pas eu un tir, il n'y a pas eu de tir à arme à feu avec des armes blanches.
Aucun coup de feu. N'a été tiré, hein.
C'est ça, Juan, ils sont entretués avec des pierres. Alors ça, c'est les Indiens qui racontent, avec des pierres, des barres de fer, des bambous, avec des clous, hein, ce qui fait mal, évidemment. Et puis, beaucoup de noyades, puisque des soldats seraient tombés dans la rivière, se seraient heurtés et seraient noyés dans cette rivière Galwan. Mort côté indien, pour l'instant, les Chinois n'ont pas, Amidou, dressé de bilan des victimes. Hein. Il n'y a pas ça dans la presse chinoise, moi j'ai regardé ça tous les jours. Pour l'instant, on ne sait pas combien de Chinois sont morts. Les autorités indiennes ont évoqué le chiffre de 40 morts côté chinois, mais on n'en sait rien. Et ces combats serait peut-être, enfin en tout cas vous l'avez dit, hein, Juan, depuis une dizaine d'années on avait des tensions très vives, mais il n'y avait pas de combat, il n'y avait pas d'affrontement, c'était très rare. Et il y a un mois déjà, ce combat serait peut-être une revanche de ce qui s'est passé il y a un mois, où on a eu des échauffourées, des affrontements, en tout cas entre soldats indiens, chinois, pareil, hein, à la main ou avec des barres de fer, avec des pierres, près du lac Pongongso, j'ai repris mes notes hein, avant de vous parler. Les Chinois accusent encore une fois les Indiens de construire par exemple une route près de la ligne de contrôle. On a vu ces derniers jours des images d'ailleurs hein, montrant les ponts et chaussées. Enfin, je crois pas qu'on dise comme ça en termes militaires, mais enfin ceux qui construisent les routes dans l'armée indienne venir construire un pont sur cette rivière Galwan. Et on a vu aussi des images satellites montrées cette fois par les Indiens qui montrent eh bien des postes de garde, des infrastructures militaires également chinoises qui se construisent autour de cette ligne de démarcation, ce qui échaufferait visiblement plus qu'échauffer même d'ailleurs les esprits, ce qui a conduit à ces affrontements.
Affrontements qui ont donc fait 20 morts officiellement côté indien, et pour l'instant on ne connaît pas le bilan côté chinois, vous le disiez Stéphane Lagarde. Hamidou, je vous ai un peu coupé la parole, vous aviez une deuxième question.
Oui, Juan, comment les deux pays tentent-ils de trouver une solution à ces conflits?
Ah, Stéphane Lagarde, on voit que la colère monte en Inde, en tout cas, il y a des drapeaux chinois qui ont été brûlés ces derniers jours, plusieurs appels à boycotter les produits chinois ont également été lancés. Est-ce qu'il y a une volonté de part et d'autre, j'ai envie de dire, d'éteindre le feu et d'essayer de trouver une solution?
Alors officiellement, je vous réponds oui, Juan, mercredi dernier, les militaires des deux parties se sont vus pour enterrer la hache de guerre, hein, même s'il n'y a pas encore de guerre, n'exagérons pas, hein, ce sont des combats, encore une fois, sans armes à feu, en tout cas. En tout cas, ils se sont rencontrés, ils ont dit qu'ils allaient des deux côtés apaiser les tensions, mais il n'y a pas que les militaires dans cette histoire maintenant, il y a d'abord, c'est devenu politique, effectivement, il y a les médias des deux pays qui, parfois, côté indien comme côté chinois, ben, mettent un peu de sauce sur le feu, et donc on a aussi cette montée du nationalisme en Inde, qui est d'ailleurs reprochée par les médias chinois, et qui disent que finalement, eux, ils n'ont pas donné les bilans pour justement pas monter les tensions nationalistes. Ils ont peur de perdre le contrôle s'ils se mettaient à dire, par exemple, qu'il y avait plus de morts chinois qu'indiens. Mais il y a en même temps des provocations. Moi, je lis plus la presse, je vous l'avoue, la presse chinoise qu'indienne. Il y a des provocations aussi, puisqu'on a vu récemment dans des médias d'État chinois dire que, attention, en mettant en garde l'armée indienne, en disant, attention, sinon vous refait le coup de 62, hein, cette guerre, où là, il y avait une humiliation côté indien, en tout cas du point de vue chinois. Donc voilà, l'armée, il montre aussi une armée populaire de libération, donc l'armée chinoise qui se prépare. Donc je ne sais pas si ça, c'est de manière à calmer les choses.
Hein. L'armée chinoise donc qui se prépare, et un premier ministre indien qui a prévenu vendredi dernier que l'armée indienne avait carte blanche, ce sont ses propos, carte blanche pour répliquer à toute violence. On suivra évidemment l'évolution de la situation, notamment avec vous Stéphane Lagarde, correspondant permanent de RFI dans la région. Hamidou, a-t-on répondu à vos questions?
Oui, merci et merci à Stéphane.
Stéphane Lagarde, évidemment. Bonne journée à Ouagadougou. Stéphane, à très vite sur l'antenne de RFI. Il est 10h17 à Paris. Vos questions, 33 9 693 693 70. Je vous le rappelle, et je le dis souvent, n'attendez pas le début de l'émission pour nous contacter. Vous pouvez le faire tout au long de la journée. On a besoin, évidemment, de connaître vos questions en amont pour contacter nos experts, nos envoyés spéciaux, nos correspondants, afin qu'ils vous répondent en direct. Bonjour Taïrou.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Vous avez des questions concernant l'affaire des adoptions illégales au Mali?
Tout à fait. L'ONG Rayon de Soleil est poursuivie par 9 Français adoptés enfants maliens en France pour escroquerie et abus de confiance. Les conditions d'adoption étaient selon eux frauduleuses. Comment l'ONG a-t-elle pu faire adopter des enfants maliens en France sans que les autorités françaises et maliennes ne s'en rendent compte?
9 Français, hein, 9 Français d'origine malienne, âgés aujourd'hui d'une trentaine d'années, ont effectivement porté plainte contre cette association. Bonjour Marie Casadebé.
Bonjour Juan et bonjour Taïrou.
Vous suivez ce dossier pour RFI. Visiblement, d'après donc ces Français d'origine malienne, l'association en question aurait eu recours à des stratagèmes pour contourner la loi dans le but de faire adopter en France des enfants nés au Mali. Que sait-on des conditions d'adoption de ces 9 plaignants?
Alors, selon les avocats des plaignants, l'association Le Rayon de Soleil parle bien d'une coopérante française installée donc sur place au Mali à l'époque, proposée à des familles maliennes modestes de confier leurs enfants à des familles françaises, mais de façon temporaire. Alors, elle promettait à ses parents maliens que leurs enfants reviendraient au pays, mais une fois qu'ils auraient 18 ans, et puis que pendant toutes ces années, ils allaient pouvoir garder le contact avec eux. Cette forme d'adoption, elle existe dans le droit malien, on appelle cela l'adoption protection. Les deux avocats français qui s'occupent de cette affaire soupçonne l'association en fait d'avoir fait signer aux parents maliens, souvent illettrés, des papiers dans lesquels en fait ils renonçaient à s'occuper de leurs enfants. Alors le discours tenu aux familles françaises était évidemment très différent. Il était bien question là d'adoption définitive, ce qu'on appelle en France l'adoption plénière, sans retour en arrière possible et avec une rupture totale des contacts avec les parents biologiques.
Une fois adultes, ces enfants adoptés se sont finalement rendus compte qu'il y avait des zones d'ombre dans leur parcours, dans leur histoire.
Oui. Oui, oui, ceux qui ont cherché à retracer leur passé en se rendant au Mali ont découvert des contradictions dans leur dossier. Dans l'enquête menée par la chaîne TV5 Monde en collaboration avec le journal Le Monde, on peut suivre dans le documentaire une jeune femme, par exemple, qui est en quête de son acte de naissance à la mairie de Ségou, dans le centre du Mali. Or, dans les registres de la mairie, aucune trace de sa naissance. Elle est donc même plus sûre d'être née un 30 novembre 1987. Et le personnel de la mairie affirme que le document qui a été remis à ses parents adoptif par l'association est un faux. L'ONG est d'ailleurs soupçonnée d'avoir menti sur l'âge de certains enfants pour leur trouver plus facilement une famille d'adoption. Entre 1989 et 2001, 324 mineurs ont ainsi été adoptés en France par le biais du rayon de soleil au Mali. 9, vous l'avez dit, ont porté plainte pour escroquerie, recel d'escroquerie et abus de confiance.
Taïrou, vous avez une autre question.
Oui, qu'attendent les plaignants de la justice française ?
Marie Cazadebé.
Mettre les uns et les autres face à leurs responsabilités, ça c'est comme ça que l'un des avocats résume ses attentes. D'abord l'association, évidemment, qui soutient que les parents maliens étaient tout à fait informés de ce qui allait se passer pour leurs enfants. Elle nie tout trafic. Le rayon de soleil avait déjà été cité pour des soupçons d'adoption frauduleuse par des journalistes, alors dans les années 90 au Mali, puis dans les années 2000 en Centrafrique et au Pérou. Or l'association n'a jamais été inquiétée. Elle bénéficie d'ailleurs toujours de l'agrément du ministère français des Affaires étrangères dans 6 pays. Les 9 plaignants veulent aussi dénoncer les insuffisances de la MAI, c'est la mission de l'adoption internationale, l'institution chargée de contrôler les organismes d'adoption internationaux. Les plaignants l'accusent évidemment de ne pas avoir correctement fait leur travail en laissant le rayon de soleil agir. Et puis dans cette affaire, pour conclure, Juan, la justice française pourrait avoir une responsabilité. Elle n'aurait jamais dû accepter l'adoption plénière de ses enfants maliens, alors que cette forme d'adoption n'existait pas alors dans le code malien, sauf pour les enfants dont les parents n'étaient pas identifiables ou décédés, ce qui n'était pas le cas de certains des 9 plaignants dont on parle depuis tout à l'heure.
Taïrou, a-t-on répondu à vos questions ?
Très, très, très bien. Bon. Je vous remercie. Bon, merci à Cazadevé.
Oui, Marie, de son prénom, Marie Cazadevé du service France de RFI. Bonne journée à tous les deux. 33 9 693 693 70. Tibur, c'est avec nous. Il est à Libreville. Bonjour.
Bonjour, Juan.
Bienvenue, nous vous écoutons.
Oui, dans un livre, John Bolton accuse Donald Trump d'avoir demandé de l'aide à la Chine pour être élu et ainsi à privilégier ses intérêts personnels au détriment de ceux du pays. Ma première question, c'est de savoir si ces accusations sont crédibles et comment réagit Donald Trump.
Ah, ces accusations sont-elles crédibles ? Je ne sais pas si Jean-Éric Brana a une explication à nous fournir ce matin. Bonjour Jean-Éric Brana.
Bonjour Juan.
Maître de conférence à l'Université Paris 2 Assas, spécialiste de la politique et de la société américaine. Ce livre ne sortira que dans quelques heures, mais on en parle depuis déjà plusieurs jours, puisque le New York Times, le Washington Post, pour ne citer que, ont déjà publié de nombreuses des extraits, disons-le, accablants pour Donald Trump. Et dans ce livre, effectivement, l'ancien conseiller à la sécurité nationale accuse le président Trump d'avoir sollicité l'aide de Pékin pour sa réélection. Avant de répondre précisément à Tiburce, à quoi fait référence John Bolton ?
Alors, il fait référence au fait que, effectivement, Donald Trump pourrait expliquer que, à Xi Jinping qu'il a besoin de lui pour acheter des produits agricoles dans les États du centre des États-Unis qui dépendent terriblement de ce commerce, notamment de soja avec la Chine. Et Tibur n'a pas tort, puisqu'en réalité, en début d'année, qu'est-ce que Xi Jinping a annoncé ? C'est qu'il a augmenté les achats de soja de près de 100 milliards de dollars. Alors Donald Trump aurait demandé ce petit effort de façon temporaire, juste histoire de passer les élections et de montrer que sa guerre avec la Chine était efficace. Xi Jinping aurait parié sur un temps long en acceptant de rendre ce service à Donald Trump en espérant ensuite pouvoir négocier avec lui par la suite. Au-delà de ça, de l'épiphénomène, bien sûr, ce qui est en cause, c'est la façon de gouverner de Donald Trump, savoir s'il gouverne par petits arrangements pour se servir lui-même avant de servir l'État. ce qui est évidemment une façon de dévoyer sa fonction. Et tout ça jette une mare dans la campagne de Donald Trump, qui, après la crise Covid, voulait désigner la Chine comme coupable de tous les maux. Et essayer d'associer au passage Joe Biden à la Chine en reprenant des citations de Biden vis-à-vis des Chinois venus du passé. Tout ça aujourd'hui est effacé puisque Bolton a créé le trouble et empêche de croire que...
Mais vous y croyez, vous, Jean-Éric Branat, vous qui êtes un spécialiste de la politique américaine, qui êtes en permanence connecté sur les sites de la presse américaine, vous y croyez aux accusations de Bolton?
Alors, je vais vous répondre avec une boutade, mais qui n'en est presque pas une, c'est que Bolton commence par citer Paul Laxalt au début, qui est l'ancien gouverneur du Nevada, un basque français, en expliquant que c'était son mentor et qu'il lui a tout expliqué en politique. Et je me dis que s'il a un tel mentor, il ne peut dire que la vérité. C'était une boutade, mais en réalité, oui, je crois que Bolton dit beaucoup de vérité dans ce bouquin. Il parle de tout ce qu'on connaît. Il parle de la désorganisation au sommet de l'État. Il parle de ce chaos. Il parle de l'imprécision et de l'incompétence des conseillers au départ. Il parle aussi de la professionnalisation de Donald Trump, qui a peu appris le travail et a appris à s'en servir. Il essaie de démonter dans ce livre toute la mécanique Donald Trump, qui n'a qu'une visée, c'est la visée électoraliste, une seule idée, être réélu. Et c'est bougrement crédible quand on lit le bouquin. Alors, je ne l'ai pas complètement lu, mais je suis en train de le faire. Mais c'est vrai qu'on lit ça comme un roman quand on est possédé par la passion de la politique américaine. Donc, ça va bien sûr être largement commenté dans les heures qui viennent.
Oui, évidemment. Et on en parlera longuement tout au long de la journée et dans les prochains jours. Vous avez d'autres questions, il me semble, Tiburce?
Oui, j'ai une deuxième question. Est-ce que ces révélations pourront permettre à l'opposition démocrate d'entamer une nouvelle fois une procédure de destitution?
Jean-Éric Branat.
Ah oui, elle pourrait tout à fait le faire, mais elle ne le fera pas parce que le temps est compté. Aujourd'hui, c'est les élections qui vont servir de procédure en destitution en tant que telle. En tout cas, c'est ce que pense l'équipe Joe Biden. Mais vous avez vu le temps que cela prend. Une procédure de destitution, c'est entre 3 et 6 mois. Mmh. On n'est plus qu'à 132 jours de l'élection, donc ce serait peine perdue, bien sûr, de faire ça aujourd'hui. En revanche, c'est vrai que ça donne du grain à moudre à Joe Biden, qui va reprendre chacune des phrases contenues dans le livre de Bolton, même celles qu'on va trouver totalement anodines, et qui va dire, mais c'est pas moi qui le dis, c'est un de vos plus meilleurs conseillers, hein, il était près de vous, c'est un républicain. C'est pas un démocrate qui lance ces accusations.
Mais en même temps, ça va être Jean-Éric Branat. Jean-Éric Branat, vous dites que ce livre sera destructeur. Bolton n'est pas le premier à publier un livre critique sur Donald Trump. J'ai l'impression que les ouvrages se suivent et se ressemblent, et chaque livre glisse finalement sur le président américain sans véritable impact sur sa notoriété, sa popularité.
Bien entendu, on pourrait dire qu'il y a un livre qui sort tous les jours sur Donald Trump pour le détruire, mais en revanche, jamais encore on avait eu le livre d'un ministre de Donald Trump qui était aussi proche, qui connaissait les secrets. Rendez-vous compte, il était conseiller à la sécurité nationale, c'est-à-dire qu'il était au courant de tout ce qui se passait aux États-Unis et dans les rapports avec les autres pays. Notamment, il parle longuement de la relation avec la France et avec Emmanuel Macron.
Oui, le bureau de Bolton était à quelques mètres du bureau Oval. Hein. Ils travaillaient ensemble à la Maison-Blanche, Trump et Bolton. Je pense qu'on a, puisqu'il nous reste une petite minute, on a oublié de répondre à une question de Tiburce qui nous demandait comment réagit Donald Trump aux accusations de Bolton.
Ah, très mal. Il a donc lancé une accusation en justice, il a poursuivi en justice.
Ah, Jean-Éric Branat, nous vous avons perdu, très mal.
Il a réagi. Non, je suis là. Je suis
vous êtes là, très bien.
Donald Trump a très mal réagi, il a poursuivi John Bolton en justice, mais il n'a pas pu faire interdire le livre. On pouvait s'y attendre parce qu'aux États-Unis, on ne fait pas interdire un livre sans raison. En revanche, s'il y a effectivement des problèmes de sécurité nationale, Bolton sera poursuivi. Ça aussi, c'est la loi américaine et Donald Trump ne va pas lâcher de ce côté-là. D'après ce qu'on lit, il y aurait effectivement beaucoup de choses qui touchent la politique étrangère, donc qui relèvent de la sécurité nationale. Mmh. Donc ça va être un nouveau feuilleton qui va s'engager. Juste un mot, pendant que Trump mène ce feuilleton-là, il ne se bat pas contre Joe Biden. C'est bien là le gros danger dans l'affaire qui occupe aujourd'hui Donald Trump.
L'analyse de Jean-Éric Branat. Tiburce, a-t-on répondu à vos questions ?
Très bien, merci Juan, merci à Jean-Éric aussi.
Jean-Éric Brana, maître de conférence à l'université de Paris 2 à Assas. Bonne journée à tous les deux. D'autres questions à la rédaction demain matin? On avait prévu, pour être honnête, d'autres questions ce matin, mais on a été un peu bavard, c'est comme ça. On prend le temps de vous répondre, de vous expliquer, d'analyser l'actualité. Continuez à nous appeler 33 9 693 693 70. J'attends également vos questions sur les réseaux sociaux, le compte WhatsApp et la page Facebook de l'émission. À suivre le journal et on revient dans 10 minutes. On parlera de la crise politique au Mali. Comment sortir de l'impasse ?